Amis, frères et sœurs en Christ, ce sujet est d'une importance capitale pour nous croyants chrétiens. Par cet enseignement, le croyant chrétien doit comprendre comment le péché s'accomplit dans la vie de chacun de nous, et surtout connaître les conséquences du péché. Sans cette connaissance, l'espérance n'est qu'un mot vain. Notre séjour sur la terre est une épreuve de la consolidation de notre foi et croyance. Nous sommes en attente de la validation et de la proclamation. Il est important, amis, frères et sœurs, de ne pas négliger les enseignements. D'ailleurs, ces enseignements sont gratuits. De même, aucun des enseignements audio que vous écoutez vous ont demandé d'aller quelque part, mais d'exercer la croyance et la foi en nous-mêmes. Écoutez ces passages. Éphésiens 4, versets 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le péché. D'où vient le péché? Le péché est dans l'homme. Le péché est né en même temps que l'homme. Le salaire de ce péché est la mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dès la conception d'un être humain, le péché est aussi conçu ainsi que la mort. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'enfant d'Adam est porteur du péché ainsi que la mort en lui dès sa conception dans le ventre de sa mère. Il n'y a qu'un seul homme qui a été conçu sans le péché et par conséquent sans la mort. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui, car il n'a pas été conçu par Adam le pécheur. Luc 1, verset 31. Et après nous prendrons le verset 34 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus, dès sa conception dans le ventre de sa mère, il était saint. Cela a été attesté par l'ange annonciateur de la bonne nouvelle à Marie, la fiancée de Joseph, de la maison de Judas. Donc c'est lui, Jésus, qui a été chargé par son Père Dieu de sauver l'enfant d'Adam, son semblable, en portant sur lui son péché pour qu'il soit cloué et détruit sur la croix. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, aucun autre n'a été choisi par Dieu pour porter les péchés du monde. Aucun homme des hommes pécheurs descendants d'Adam n'a été choisi pour porter les péchés des mortels, et aucun n'a pu les clouer sur la croix. Seul Jésus avait cette mission. Frères et sœurs, amis en Christ, après cette introduction, nous allons voir ensemble le processus du péché jusqu'à son accomplissement. Il est bon de commencer par le début pour que chacun comprenne bien. L'accomplissement du péché est la transgression de la parole de Dieu, la désobéissance à la recommandation de Dieu Créateur. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre a été donné par Dieu à Adam, le premier homme. Mais Adam avait-il gardé cet ordre de Dieu ? Non, Adam a plutôt écouté ce que sa femme lui avait dit après avoir été séduite par le serpent qui incarnait Satan. Genèse 3, versets 8 à 13. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est l'apparition du péché dans le monde et voici les conséquences du péché. Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Écoutons maintenant ce que les versets 22 à 24 nous disent. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous venez de prendre connaissance des conséquences qu'engendre le péché, c'est-à-dire la transgression de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir le processus de l'accomplissement du péché, car le péché est dans l'homme. Il devient actif par un processus qui est composé de quatre étapes. Le péché dort dans l'homme, dans son corps, spécialement dans sa conscience. Il faut d'abord le réveiller. Ce qui réveille l'homme, c'est ce que l'homme entend. Si c'est la parole de Dieu qu'on entend, cela réveille la foi et la croyance en Jésus-Christ. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si ce qu'on entend vient de Satan, c'est-à-dire du monde, cela réveille le péché. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Cette première étape, l'homme peut arrêter le processus en triomphant du péché. Car Jésus a aussi arrêté cette première étape du processus du péché, et Jésus a triomphé du péché. Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après avoir entendu ce que Satan lui disait et lui racontait, même après lui avoir montré toutes ces choses, Jésus-Christ n'a pas succombé, il a arrêté toute séduction et tentation. Luc 4, verset 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et dans le verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et plus bas dans le verset 12, Jésus lui répondit, « Il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » En fin de compte, Satan a échoué et s'est éloigné de Jésus-Christ. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais Ève et Adam avaient-ils imité le comportement et la conduite de Jésus-Christ? Non. Eux, par contre, ont poursuivi tout le processus jusqu'à l'accomplissement du péché dans leur vie, c'est-à-dire dans leur corps. Après avoir entendu, Ève passa à l'étape suivante du processus. Voyons cela dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève, par ce que racontait le serpent, elle était séduite. La séduction la pousse à passer à la deuxième phase du processus, qui est la convoitise. La convoitise l'a poussée dans la phase suivante, c'est-à-dire l'envie. Ève s'est mise en plein dedans. C'est la position, le point de non-retour. Ève passe à l'acte ou l'accomplissement du péché. Tout ce processus s'appelle la construction du temple de la mort. Son corps est devenu un temple habité par l'esprit satanique ou l'esprit du monde, l'esprit de la mort. Cette convoitise provoque l'envie de posséder, envie d'être comme les autres, envie de faire et d'accomplir ce qu'on a entendu et vu. Satan montre des choses qui donnent envie aux enfants de Dieu. Et surtout, c'est que Satan pousse toujours les enfants de Dieu à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu pour attirer les enfants de Dieu vers lui afin de les amener à le glorifier. Il invite les enfants de Dieu à être les amis du monde, c'est-à-dire posséder les choses du monde par tous les moyens illégaux selon la volonté de Dieu. Les choses du monde détournent toujours les enfants de Dieu de sa parole. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans ces passages, on peut bien distinguer l'esprit de Dieu et celui du monde, c'est-à-dire l'esprit satanique. Le Seigneur Jésus avait l'esprit de Dieu. Par contre, Adam et Ève n'avaient pas l'esprit de Dieu. Genèse 2, versets 7 et 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et dans les versets 15 et 16, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Adam n'a pas cultivé en lui l'Esprit de Dieu, n'a pas mangé ce qui lui a été ordonné de manger. Par contre, Jésus, depuis sa naissance, a toujours cultivé en lui l'Esprit de son Père. Il est resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour nous tous, hommes perdus. Jésus n'a point péché, il n'a jamais trahi son Père. Les croyants chrétiens doivent aussi avoir ce comportement, cette conduite de Jésus-Christ. Évitez la convoitise qui pousse à l'envie. En se détournant de la convoitise, les croyants chrétiens demeureront toujours devant Dieu le Père. Et ainsi, ils le glorifieront et ils seront glorifiés. Jean 12, 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ils marcheront toujours devant le Père par Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu Saint. Par le baptême, par immersion dans les eaux qui coulent, au nom de Jésus. Celui qui a entendu la bonne nouvelle est né selon Dieu. Le péché est détruit, comme la mort est aussi détruite. Mais c'est par la foi. Maintenant, il faut consolider cette foi par le comportement, la conduite et les actes et gestes qu'on pose tous les jours, qui sont conformes à la parole de Dieu, définis dans la loi royale donnée par celui qui nous a rachetés, par le sacrifice et l'offrande unique de son corps. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. La consolidation de la foi chrétienne se fait par la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Pierre 1, verset 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La consolidation, la sainteté, la perfection se déroulent tout au long de notre vie sur la terre, notre séjour. C'est vraiment personnel. Le serviteur de Jésus, lui, dans tout cela, n'a qu'une seule mission selon le Maître. Marc 16, verset 15-16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pendant cette période de consolidation, c'est-à-dire ces jours sur cette terre, que doit faire le croyant chrétien? 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Toujours marcher devant Dieu, demeurer dans sa présence, c'est-à-dire que sa parole demeure dans le cœur du croyant chrétien pour accomplir la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Et Genèse 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amis, frères et sœurs en Christ, écoutez bien. Celui qui demeure fermement jusqu'à la fin de son séjour sur cette terre des mortels, lui, se verra recevoir la validation de sa foi et sera proclamé le Fils de Dieu et héritera le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle. Marc 1, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » 1 Jean 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Apocalypse 3, 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, amis, c'est d'un amour sincère sortant d'un cœur pur que ces choses vous sont partagées. Gloire à Dieu.